voix nue. Toute cette semaine, Raphaël Bourgois rencontre Laurence Parizeau. Ce soir, patronne des patrons.
Bonsoir Laurence Parizeau.
Bonsoir.
Ça y est, vous êtes présidente du MEDEF. On a évoqué depuis lundi le parcours qui vous a amené jusque-là. L'enfance dans une maison au cœur de l'usine familiale, les années de formation à Nancy et à Sciences Po Paris, la découverte du monde des sondages et de l'opinion avant de prendre la tête du plus ancien institut en la matière, donc l'IFOP, et enfin les premiers pas au sein du syndicat patronal et la campagne pour en devenir donc la présidente. Vous nous avez raconté votre joie immense au moment de l'élection. Quand on vous a demandé la première chose que vous alliez faire au MEDEF, vous avez dit « mettre des fleurs ». Alors ça peut avoir l'air d'une boutade, mais ça dit quelque chose, non ? Une certaine envie aussi d'humaniser l'institution, peut-être ?
Exactement. C'était impersonnel. C'était froid. Le bâtiment lui-même est tout à fait austère. Il n'y a aucune raison que la représentation des chefs d'entreprise soit grise, sans chercher à faire de rime. Et donc, il faut mettre de la couleur et il faut remettre de la vie. C'est bien pour ça que installer un beau bouquet de fleurs dans le hall d'entrée du MEDEF et écrire en lettres d'or dans l'auditorium du MEDEF « L'entreprise, c'est la vie », c'est exactement la même chose.
Il s'agissait aussi pour vous de décontracter l'appareil, c'était votre expression. Encore une fois, comme à votre habitude, quand vous arrivez quelque part, en faisant venir un peu de jeunesse.
De la jeunesse, mais pas forcément...
Sans faire de jeunisme.
Voilà, et pas forcément en termes de tranche d'âge. D'abord, peut-être de la diversité. J'apportais une touche de féminité. J'ai essayé d'encourager les femmes à s'investir plus encore dans le MEDEF. Mais je voulais aussi qu'il y ait tous les profils de chefs d'entreprise, des jeunes, des start-upers, des moins jeunes, des chefs d'entreprise issus des dom-tom, par exemple. Ils étaient tout à fait négligés, voire oubliés. Il fallait rebattre les cartes à tout point de vue. Et donc, j'ai voulu ouvrir les portes du MEDEF, ouvrir les portes et les fenêtres.
Est-ce que c'est aussi parce qu'on a une époque où le monde économique change, la structure de l'économie en France change? On est juste avant la crise de 2007, évidemment, mais elle frappera au moment où vous êtes présidente du MEDEF, Laurence Parizeau. Et est-ce que, voilà, il s'agissait aussi d'adapter à une époque où le changement est très très rapide, vous avez parlé des start-up notamment.
Oui, vous avez raison. Alors quand je suis élue, ce changement avec les nouvelles générations d'entrepreneurs ne fait que pointer à l'horizon. Ce n'est pas encore aussi évident qu'aujourd'hui, par exemple. Mais néanmoins, très vite, j'ai voulu faire en sorte que des industriels du numérique, des créateurs de nouvelles entreprises dans les services du e-commerce également soient présents, participent à nos réunions et injectent leurs idées neuves, car c'est vraiment une approche très différente de l'entreprise que cette génération apporte.
Vous disiez pour un MEDEF moderne, ça d'accord, mais aussi moral et modeste. Ces deux adjectifs, ils sont plus difficiles à coller, on va dire, à l'organisation patronale. Pourquoi moral et modeste ?
Je crois qu'il ne peut pas y avoir un bon fonctionnement de l'économie dans une économie de marché, une économie libérale, sans une éthique. Et cette éthique a beaucoup manqué. C'est une des raisons qui explique la crise des subprimes déclenchée en 2008. Il y a une folie, une capacité, tellement l'argent coule à flot, à oublier tous les garde-fous qu'on doit se donner à soi-même et que les grands penseurs libéraux, comme Adam Smith, exigeaient des acteurs de l'économie. Et donc, moi, je voulais, au contraire, rappeler que toute action économique, bien sûr, répond à des règles d'exigence, de réussite, de profit, de satisfaction du client, mais aussi pour que les choses se passent le moins mal possible, dans une certaine morale. Morale ne voulant surtout pas dire moralisme. Il n'est pas question de donner des leçons. C'est pas ça. Mais il est question d'avoir à tout instant le respect de l'autre. Et quand on a ça à l'esprit, ça change beaucoup de choses.
Mais est-ce que l'éthique, Laurence Parisot, ne passe pas aussi par la régulation? Je dis ça évidemment à la libérale que vous êtes, c'est-à-dire faire confiance aux acteurs dans un système libéral et ouvert, c'est aussi s'exposer à un manque de morale, à un manque d'éthique. Ça marche peut-être mieux quand il y a une régulation qui est imposée par l'État ou par toute forme d'institution.
Oui. Vous avez raison, le vrai libéralisme suppose un cadre et donc les règles qui définissent ce cadre pour que chacun partage les mêmes lois et s'impose une règle du jeu commune. Mais si on va trop loin dans le détail, c'est là que d'abord on brise beaucoup d'initiatives et surtout on empêche l'innovation, on empêche la créativité, parce que vous aurez fait un tel quadrillage réglementaire qu'il n'y aura plus aucun espace créatif. Et puis, par ailleurs, c'est très important de faire en sorte de lancer une impulsion pour que l'éthique vienne de soi-même. C'est même la meilleure façon pour respecter un comportement acceptable de tous. Si tout vient du sommet, vous n'êtes jamais sûr que le sommet lui-même ait la bonne morale. Vous avez beaucoup de circonstances où même dans les pays démocratiques, ceux qui édictent les lois n'ont pas forcément une éthique à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Et puis surtout, la morale, quand elle est imposée dans le moindre détail, devient un moralisme insupportable.
Alors le détail, c'est évidemment, Laurence Parisot, ce qui va vous occuper avec les autres organisations syndicales à votre arrivée à la tête du MEDEF. Il s'agit pour vous de renouer le dialogue social. On a l'impression qu'en France, il faut toujours relancer le dialogue social, que c'est jamais une évidence, qu'il est toujours un petit peu en panne. Quel est votre regard là-dessus?
Cette expression « relancer le dialogue social » est une expression qu'adorent les politiques, de droite comme de gauche, parce que c'est leur façon à eux de montrer leur importance, leur utilité, car si le politique n'était pas là pour dire « Allez, les partenaires sociaux, remettez-vous ensemble », eh bien, rien ne pourrait marcher. En fait, le dialogue social fonctionne très bien dans notre pays. Dans toutes les entreprises françaises, il y a des négociations, des délibérations, des échanges constants entre les représentants du personnel et la direction de l'entreprise. Quant au niveau national, il peut y avoir une dynamique de dialogue social plus ou moins intense selon les périodes et suivant aussi les personnalités qui dirigent les organisations. Mais globalement, il y a plutôt une bonne entente. Et ma conviction est que c'est le politique qui soit fait mine de croire qu'il n'y a pas une bonne entente, soit fait en sorte qu'il n'y ait pas une bonne entente. Ce n'est jamais l'intérêt du politique que nous soyons capables, nous les partenaires sociaux, d'agir par nous-mêmes.
Un premier grand chantier que vous avez à traiter en tant que présidente du MEDEF, Laurence Parisot, c'est la loi de modernisation du travail. Alors évidemment, on imagine que les premiers contacts avec les syndicats ne doivent pas être faciles. Quand on a dit, on l'a rappelé au cours d'une émission précédente, la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Comment est-ce que vous abordez cette négociation?
Le contact avec les syndicats a toujours été, même avec cette phrase, formidable, direct, et je dirais même facile. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est de ne pas tricher. Ce qui compte, c'est de dire le fond de sa pensée et de ne rien dissimuler. À partir du moment où cette clarté existe dans les discussions entre patronat et syndicats, on est capable de faire beaucoup de choses ensemble. Quand on a abordé la question de la rupture conventionnelle, en réalité, il a fallu beaucoup de temps avant de parvenir à un accord. Il a fallu qu'on discute du diagnostic, de ce qui bloquait. J'ai proposé une nouvelle méthode qui consiste d'abord à se donner du temps dans une phase que j'ai appelée la délibération sociale. Et puis, une fois que la délibération a permis de mieux se comprendre, de bien identifier les objectifs des uns et des autres, à ce moment-là, on peut rentrer en négociation. Et puis, dans la négociation, il faut admettre que les choses évoluent. Et le point fort, je crois, de ce que j'ai essayé d'établir comme méthodologie, consiste à dire, vous avez une position A, moi j'ai une position B, eh bien au lieu de rester figé sur A et sur B indéfiniment, essayons ensemble de construire C. C'est ça que j'ai appelé le désaccord constructif, et c'est comme ça que nous sommes parvenus à la rupture conventionnelle. Et ce texte et cette modalité est essentielle, c'est une innovation majeure du droit social français, parce que pour la première fois, nous avions un dispositif dont la philosophie consistait à dire nous sortons du conflit, nous sortons de la lutte des classes, disons-le, et nous pouvons nous mettre d'accord, nous pouvons nous séparer par consentement mutuel.
Maryse Dumas, qui a longtemps été la numéro 2 de la CGT, dites-vous, Laurence Parisot, avec Laurence Parisot, on ne dialogue pas, on ne négocie pas, on délibère. Alors peut-être qu'elle voulait dire par là que justement, on va au fond des choses, la délibération, c'est peut-être le moment où on va le plus au fond des choses. Comment est-ce que vous entendez cette phrase? C'est vrai que on l'a entendu à plusieurs reprises au cours de ces émissions, vous n'aimez pas aborder les choses de manière superficielle, vous aimez aller en profondeur. Est-ce que c'est ça qui caractérise aussi votre action?
Oui, pour reprendre les propos de Maryse Dumas, je crois que dans la délibération, il y a la réflexion. Il y a la recherche de concepts, il y a la volonté de ne rien oublier, d'être le plus exhaustif possible. Il y a aussi autre chose. La délibération, ça veut dire qu'on se donne du temps. Et le temps est indispensable pour trouver des accords. C'est le temps qui permet à des négociateurs d'apprendre à se connaître, à se respecter, à détecter la psychologie des uns et des autres, et in fine, à se faire confiance. Et vous ne pouvez pas aboutir à de bonnes négociations s'il n'y a pas une confiance qui s'établit. Et c'est aussi la meilleure façon de fabriquer de l'adhésion. Et si la rupture conventionnelle marche bien, c'est parce qu'elle a été conçue entre les syndicats et le patronat à l'époque, et parce qu'une majorité très significative de syndicats ont participé à son élaboration, du coup, ce dispositif n'est pas fondamentalement remis en cause aujourd'hui.
Évidemment, les matières sociales sont des matières très très complexes et qui demandent beaucoup de techniques. Et donc, vous êtes évidemment obligé de vous appuyer sur l'expertise de certaines personnes, dont celle de Denis Gauthier-Sauvagnac, qui est toujours le très influent patron de l'UIMM. Et vous le nommez numéro 2 du MEDEF, malgré évidemment des inimités internes qui font qu'il vous a savonné la planche à plusieurs reprises. On sait que vous n'étiez pas sa candidate. Vous lui confiez la commission relations du travail et de l'emploi, c'est important. Alors ça, c'est jusque décembre 2007, c'est ce moment où éclate ce qu'on a appelé l'affaire de l'UIMM. Il faut le rappeler, le Figaro révèle à l'époque l'existence d'une caisse noire abondée par les cotisations des entreprises affiliées donc à l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. On apprend alors que Denis Gauthier-Sauvagnac allait régulièrement piocher dans cette caisse très importante, hein, plus de 100 millions d'euros, certes, j'ai même pu lire plusieurs centaines de millions d'euros, pour distribuer l'argent à des politiques, à des syndicats. Il parle de fluidifier le dialogue social, ce sera son expression. Alors vous, Laurence Parisot, vous êtes toujours dit avoir découvert l'affaire dans la presse, en même temps que tous les Français. Comment avez-vous vécu cette période?
Alors tout d'abord, je me souviens comme si c'était hier, du jour où j'ai appris cette information. En réalité, le directeur de la rédaction du Figaro de l'époque était Nicolas Bétou, et il m'appelle la veille au soir de la sortie du Figaro qui annonçait cette caisse noire. Il était un peu moins de 20 heures et aussitôt j'ai provoqué une réunion de crise avec mon équipe au MEDEF. Et la première question que j'ai posée auprès de ceux qui étaient dans les instances du MEDEF depuis beaucoup plus longtemps que moi, c'était « Pouvez-vous me garantir qu'il n'y a rien d'équivalent au MEDEF même ?» Et après avoir eu toutes les garanties orales, je dirais, j'ai de toute façon déclenché un audit qui me permettait de vérifier cette information. Alors ensuite, nous sommes rentrés dans une période de très très grande tension parce que il est apparu très vite que même si je suis très attachée à la présomption d'innocence, les responsables de l'UIMM qui étaient concernés par ce dossier ne pouvaient plus conserver leur rôle, leur mission au sein du MEDEF. Et c'est là qu'il y a eu vraiment des tensions très 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 fortes puisque je leur ai demandé de remettre leur mandat à la disposition du MEDEF.
Oui, au sein du MEDEF et en dehors, puisque le MEDEF est évidemment représenté, les patrons sont représentés dans tout un tas d'institutions, de décisions. Vous étiez vous-même au Conseil économique et social au nom du MEDEF à une époque. C'est ça aussi qui se joue à ce moment-là.
Oui, c'est-à-dire que dans le monde assez méconnu et pourtant très important dans la société du paritarisme, les syndicats et les organisations patronales représentent leurs institutions dans des instances comme l'assurance chômage, l'assurance maladie, les tribunaux de prud'hommes, de commerce, beaucoup de services finalement qui sont rendus aux Français sont dans la gestion, dans les mains de mandataires sociaux qui viennent soit du monde patronal, soit du monde syndical. Et l'organisation UIMM, qui est la branche patronale qui représente la métallurgie, détenait à l'époque énormément de mandats, dont des mandats très importants. Par exemple, les retraites complémentaires étaient largement gérées par des mandataires de l'UIMM. L'assurance chômage que je viens d'évoquer également. Compte tenu de ce que nous étions en train de découvrir, dont on ne connaissait pas encore au début de l'affaire l'étendue exacte, il était inconcevable que ces personnes aient toujours des responsabilités dans le cadre du paritarisme. Je leur ai demandé de remettre leur mandat, et là, ça a été vraiment...
Ça s'est pas bien passé.
Écoutez, ça a été très violent, ça a été très dur, et en même temps, je considère que ça a été plus contenu que on aurait pu voir l'équivalent dans un parti politique. Je trouve que il y avait des désaccords clairs, connus, mais il n'y a pas eu de mauvais coups.
Mais là, ça va plus loin que des désaccords, Laurence Parisot. D'ailleurs, à l'époque, il était difficile de croire pour beaucoup de monde que la présidente du MEDEF n'était pas au courant de cette affaire, de cette existence, pardon, d'une caisse noire.
Oui, alors pour beaucoup c'était difficile à croire parce que peu de gens connaissent l'organisation de ce monde patronal et de ce monde syndical aussi, parce que en fait nos deux systèmes sont absolument identiques. Mais l'UIMM est une association auquel adhèrent les entreprises de la métallurgie et l'UIMM elle-même, en tant qu'association, adhère au MEDEF. Ce qui veut dire, si je le formule autrement, que ce n'est pas une filiale du MEDEF, c'est un adhérent du MEDEF. Si vous êtes responsable de l'association des pêcheurs du dimanche, vous ne contrôlez pas les déclarations d'impôts de chacun de vos adhérents. C'est la même logique.
Vous recevez alors des soutiens importants, comme celui de Michel Rocard, qui publie une tribune dans Le Monde le 5 mars 2008, tous derrière Parisot. L'ancien Premier ministre socialiste a cette phrase dans cette tribune. « Pour moi, c'est entendu, le capitalisme sombre sous l'immoralité. » On retrouve cette question de la moralité.
Oui, et Michel Rocard évoque d'ailleurs les grands moralistes du 19e siècle, qui sont à la fois des moralistes et des économistes, pour bien signifier ce que je disais précédemment, que un bon fonctionnement de l'économie se fait avec une certaine éthique. Et Michel Rocard m'a fait un immense honneur en me soutenant à l'époque, mais d'autres, François Bayrou par exemple, avait été très clair également dans son soutien. Et c'était une façon de montrer aussi qu'il pouvait y avoir un patronat qui vivait avec un mode de fonctionnement lié à des époques très lointaines, mais il pouvait y avoir aussi un patronat très différent, très moderne, et c'était celui que j'étais en train de porter.
Michel Rocard réagit aussi aux indemnités de licenciement octroyées à Denis Gauthier-Sauvagnac. C'est un sujet sensible, hein, évidemment, la limitation de la rémunération des patrons, de ce qu'on appelle les golden parachutes. Là, la morale se pose aussi, la question de quelle inégalité, et notamment d'inégalité salariale, on est prêt à accepter. Pourtant, sur ce sujet, Laurence Parisot, vous n'êtes pas forcément favorable à ce qu'il y ait une limitation.
Oui, là, c'est la morale, mais c'est surtout la mesure. Moi, je suis très attachée à un juste milieu.
On voit bien que ça n'a pas cours.
Dans beaucoup de domaines. Si, si, ça a cours. C'est simplement, on est confronté à une avidité très grande et que le capitalisme financier de cette dernière décennie a favorisé. Mais j'estime que les choses progressent. Au moment où on se parle, on est quand même dans une conception des rémunérations beaucoup plus raisonnable qu'il y a quelques années. La question qui serait celle d'une loi ou d'une réglementation est une question qui est mal posée, parce que si on met une limite pour les chefs d'entreprise, je voudrais qu'on m'explique pourquoi on ne met pas une limite pour d'autres professions. Je pourrais évoquer les sportifs, mais certaines professions libérales, certains artistes. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il peut y avoir des rémunérations très élevées, incroyablement élevées. Donc je trouve que c'est plutôt un état d'esprit qu'il faut favoriser, un état d'esprit dans une société tout entière, et non pas désigner du doigt une catégorie en particulier. Parce qu'il faut savoir que si on met en avant les chefs d'entreprise plutôt que n'importe quelle autre catégorie, c'est parce que eux se soumettent à la transparence. Cette transparence étant liée au principe même de l'économie de marché, alors que vous avez des acteurs dans d'autres domaines qui ne sont pas soumis à cette transparence.
Alors l'affaire de l'UMM ne vous dégoûte pas de votre mandat, loin de là, on voit qu'elle renforce votre conviction, et donc vous briguez un second mandat, et vous êtes réélu en 2010, vous êtes la seule candidate, donc c'est sûr que vous êtes réélu. C'est un moment particulier, on est la crise financière qui a commencé, la crise des subprimes qui a commencé aux États-Unis commence à arriver évidemment en France, elle arrive un peu plus tard chez nous que dans d'autres pays, et vous êtes donc à la tête de ce syndicat patronale. Quel regard vous portez sur l'action qui a pu être menée à l'époque pour limiter les effets de cette crise? C'est à cheval entre deux présidences, hein, évidemment, entre celle de Nicolas Sarkozy et puis plus tard celle de François Hollande.
Alors, beaucoup de choses changent à cette époque. D'abord, dans les jours qui ont suivi la chute de Lehman Brothers, moi, j'étais absolument saisie par la gravité de la situation et je suis à l'origine d'une initiative qui est de faire en sorte que les patronats des principaux pays avancés de la planète se réunissent et échangent sur la situation et sur les solutions qu'ils imaginent. C'est comme ça que nous créons ce qui est devenu une véritable institution désormais et qui s'appelle le B20, Business 20, qui réunit les 20 organisations patronales des 20 pays les plus riches. Et ce qui veut dire qu'il faut absolument, dès que cette crise arrive, avoir une pensée qui dépasse l'hexagone, qui dépasse nos frontières, au minimum une pensée européenne. Et là, je dois dire que Nicolas Sarkozy a été d'une efficacité et d'une intelligence tout à fait exceptionnelle face à des Européens, y compris Angela Merkel, et j'ai vu ça de très près, qui étaient tétanisés. Il a su créer l'élan pour prendre les décisions qu'il fallait. Ensuite, il y a eu la crise de la zone euro. Là aussi, les patronats européens se sont retrouvés et ont agi ensemble. Mais après la crise de la zone euro qui a été surmontée, il n'y a plus nulle part, ni chez les politiques, ni chez les chefs d'entreprise, de volonté de tirer les conséquences de ces difficultés pour relancer le projet européen, pour lui donner une nouvelle dimension. Et je crois que là, le patronat doit continuer à agir dans cette direction.
Alors ce second mandat de 2010 à 2013... Quelle est la mesure ou quelle est l'action que vous avez menée en tant que présidente du MEDEF lors de ce second mandat, Laurence Parisot, dont vous êtes la plus fière en quelque sorte?
Principalement l'accord de janvier 2013, qu'on appelle dans le jargon l'ANI, accord national interprofessionnel qui...
Sur la sécurisation de l'emploi.
Sur la sécurisation de l'emploi et qui est un accord tout à fait important qui pose de nouveaux principes juridiques qui simplifient la vie des entreprises. Alors, vu de loin, on ne mesure pas l'importance de cet accord, mais dans le quotidien de l'entreprise, il y a plein de choses qui ont changé depuis cette année de janvier 2013. Par exemple, on a réduit des délais qui étaient excessivement longs jusqu'alors dans les procédures sociales à l'intérieur de l'entreprise. Et cette réduction de délai nous permet d'être au rythme de la vie économique d'aujourd'hui. Donc ce fut un très grand moment, et ceci grâce à la qualité du travail que j'ai pu mener avec Laurent Berger, le secrétaire de la CFDT à l'époque.
Alors en 2013, votre mandat arrive à échéance, votre second mandat. Selon le statut du MEDEF, vous ne pouvez pas vous représenter. Pourtant, vous décidez qu'il est nécessaire, selon vous, de faire un nouveau mandat. Et donc, vous menez campagne, je ne sais pas vraiment comment dire, pour changer les statuts et justifier un troisième mandat de votre part. Qu'est-ce qui justifiait, Laurence Parisot, selon vous, un troisième mandat ?
Alors, il faut bien savoir, bien dire que c'est parce que deux grands chefs d'entreprise sont venus me demander d'essayer de faire un troisième mandat, que j'ai tenté cette aventure. Je ne peux pas citer leur nom maintenant, je le ferai certainement un jour, mais c'est deux dirigeants très importants du CAC 40 qui ont estimé que j'avais l'expérience, la bonne relation avec le chef de l'État, François Hollande, et que la période étant très délicate pour les entreprises et pour l'économie, il valait mieux que je puisse faire peut-être 3 ans de plus avant qu'un autre président ou présidente ne me succède. Comme vous l'avez dit, il fallait changer les statuts. Changer les statuts supposait tout d'abord un vote du conseil exécutif du MEDEF. Ce vote a eu lieu. Il faut savoir que dans le conseil exécutif, il y a 45 membres. Sur ces 45 membres, 22 ont voté pour le changement de statut, 22 ont voté contre, et il y a eu un bulletin nul. Ce qui veut dire que ça s'est joué vraiment à très peu. Et je dois vous dire que je ne regrette pas du tout d'avoir tenté cette modification, d'autant plus que finalement, 22 pour, c'est 50%. 50% de cote de popularité positive au bout de 8 années d'exercice, c'est pas si mal. Il y a beaucoup de politiques qui voudraient recueillir le même score.
Oui, donc finalement, vous ne pouvez pas. C'est resté comme une blessure ou finalement vous avez été soulagé ?
Ni l'un ni l'autre. J'ai aimé tenter cette modification pour concourir. Hein. Il ne s'agissait pas de me reconduire mécaniquement. Il s'agissait de pouvoir participer à la campagne électorale qui s'annonçait. Ça n'a pas marché de peu. Mais c'était pas grave et ça me permettait de passer à autre chose.
Merci Laurence Parisot. Demain, justement, on passera à autre chose. À l'après MEDEF, on verra avec vous comment ces différentes expériences ont pu nourrir une certaine réflexion sur le monde. Merci.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Bourgois avec Laurence Parisot. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Marie-Laure Ciboulet, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.